raconte. Christophe Ondelatte.
En octobre 2019, Ludovic Liebert, un infirmier de 46 ans, étouffe son fils et sa fille de 9 et 12 ans pendant qu'ils dorment. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Ludovic Liebert.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
En octobre 2019, à Strasbourg, les gendarmes découvrent Ludovic Liebert nu et inconscient sur le sol de son studio. Et sur le lit, son fils, Léo, 9 ans, et sa fille Lou, 12 ans. Tous les deux sont morts, a priori depuis au moins 48 heures. Les gendarmes comprennent vite que Ludovic Liebert a tué ses deux enfants. Il les a étouffés avec un oreiller, et puis il a tenté de se suicider. Pourquoi ? Il voulait punir son ex-compagne de l'avoir quitté. Il mûrissait ce plan diabolique depuis un an et demi.
L'idéal qui s'était fait de la famille, à savoir des parents ensemble, avec des enfants qu'ils élèvent ensemble, c'est un échec qui lui est insupportable.
Maître Thomas Hillenbrand, avocat de Ludovic Liebert.
Et cet échec, il le fait à ce point souffrir qu'il projette de mourir et de mourir avec ses enfants. C'est pour ça qu'il va mettre en place ce projet invraisemblable d'acheter un appartement à Strasbourg pour pouvoir être enterré au cimetière de Strasbourg avec ses enfants. Il veut que sa famille soit réunie par la mort.
C'est comme ça qu'il présente les choses, pour qu'ils soient tous les trois enterrés au même endroit.
Docteur Alexandre Baratta, expert psychiatre.
Mais ça peut aussi être vu comme une façon de punir son ex-compagne. Lui montrer, regarde, tout ça c'est ta faute, tu m'as quitté. Maintenant il faut assumer les conséquences. C'était le message que Liber Ludovic veut adresser à son ex-compagne. Et c'est quelque chose qui a vraiment été prémédité et travaillé plusieurs mois en amont. Trois mois avant les faits d'homicide, il essayait de tuer ses enfants. Donc la première fois qu'il a essayé, c'était en juillet. Il avait déposé une grosse bouteille de gaz dans leur chambre et il l'avait laissée ouverte toute la nuit. Il précise d'ailleurs de façon assez froide qu'il était retourné se coucher dans le salon et que le lendemain matin, il était très surpris de voir ses enfants déambuler et il était étonné de les voir encore vivants. Il monte dans la chambre et là, il se rend compte que quelqu'un a coupé le gaz dans la nuit, donc certainement des deux enfants... On sentant l'odeur. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, il se rend régulièrement dans la chambre de sa fille pour l'étouffer.
J'avais décidé de... de commencer par ma fille aînée. La nuit, j'allais dans sa chambre. J'avais un oreiller dans les mains. Et finalement, je suis resté planté là, dans le noir. Je la voyais dormir. J'ai pas osé, alors je suis reparti.
Et en septembre, une nuit, il trouve enfin le courage. À 3h du matin, il plaque l'oreiller sur le visage pour l'étouffer. Et ça dure 3 minutes. 3 minutes durant lesquelles sa fille se débat. Et au bout d'un moment, il retire l'oreiller, il n'y arrive pas. Et il rassure sa fille. Et finalement, ce qui va précipiter le passage à l'acte final en octobre, c'est son ex-compagne qui lui remet les enfants de façon exceptionnelle un week-end sur son temps de garde à elle. Mais lui, en tout cas, l'interprète comme le fait qu'elle partent en week-end, possiblement avec un rival amoureux, avec un nouveau compagnon. Et là, il est extrêmement en colère, et c'est là qu'il va trouver la force de tuer ses enfants.
Code B43, expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta. Ludovic Liebert passe à l'acte le 11 octobre 2019. L'infirmier se rend d'abord dans la chambre de sa fille. Il lui plaque l'oreiller sur le visage. La fillette se débat et elle crie pendant près de 5 minutes. Une fois la fillette immobile, Ludovic Liebert vérifie son pouls pour s'assurer de son décès. Le père de famille se rend ensuite dans la salle de bain et il se passe le visage sous l'eau. Puis il entre dans la chambre de son fils cadet et il le tue de la même façon. Monsieur Liebert précise « Mon fils se débattait plus fort que sa sœur, c'était compliqué. J'ai dû me coucher entièrement sur lui et le maintenir. Il a dû mettre 8 minutes à mourir. »
Et une fois que son fils est décédé, Ludovic Liebert voulait en finir avec la ville, voulait se suicider. C'était le projet initial. Il avait préparé du matériel pour son geste. Il voulait s'injecter du potassium en intraveineux. Ça provoque un arrêt cardiaque très rapide. Liebert Ludovic est infirmier, donc il sait exactement comment poser une voie veineuse. Et il sait aussi que si on injecte du potassium sans le diluer dans du sérum physiologique, ça provoque un éclatement de la veine. Donc il s'injecte tout de même ses ampoules de potassium en intraveineux, sans dilution préalable. Forcément, ça fait exploser sa veine, ne fait pas d'arrêt cardiaque. Ensuite, il tente une asphyxie avec un sac plastique, et ça échoue parce qu'il explique « ça collait au visage, j'ai pas réussi à aller au bout ».
Code B24, expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta. Ludovic Liebert tente de se suicider par électrocution en saisissant un fil dénudé. Il échoue dans sa tentative. Le courant électrique n'a pas traversé le cœur. Plus tard, il essaye de se vider de son sang avec une seringue. Mais là aussi, sa tentative de suicide échoue.
Alors jamais il n'a eu l'idée de se trancher une artère, hein, ce qui aurait été un moyen beaucoup plus rapide de décéder. Jamais il n'a envisagé la pendaison. Donc on a plus l'impression finalement que c'est plus de la mise en scène qu'une véritable volonté de mourir, hein, tout ça.
Personnellement, moi j'ai pas de doute en ce qui concerne l'intention de Ludovic Liebert de mettre fin à ses jours, puisque tout était programmé, y compris les obsèques qui étaient réglées, l'argent qui était prêt pour que ça ne coûte rien. Donc son projet était clair. Et ensuite, sur l'incapacité qu'il a eue à réaliser son projet suicidaire, moi je ne me prononce pas, je ne suis pas spécialiste du potassium. Je sais que dans un premier temps, il s'en est injecté un milligramme, ensuite deux, c'est puis il n'en avait plus assez. Ensuite, il s'est prélevé le sang. Après, il a dénudé des fils électriques pour essayer de s'électrocuter. L'essentiel de son projet devant être de mourir dans cet appartement, il ne pouvait pas aller se jeter sous le métro ou passer sous un bus. C'était pas possible. C'était pas conforme au projet. Il est quand même retrouvé dans un état médical totalement affaibli et qui démontre que cette tentative de suicide est totalement sincère, ne correspondait pas du tout à une mise en scène.
Ce qui était paradoxal dans ce dossier, c'était l'énergie, le caractère méticuleux qu'il avait mis en œuvre pour arriver à l'assassinat de ses enfants, et lui-même se rate.
Ève Nizan, avocate générale.
Et donc, forcément, c'est la question que ça pose en creux, c'est est-ce qu'il ne voulait pas, effectivement, voir son ex-compagne souffrir ?
Et d'ailleurs, il y a une dimension tout à fait perverse dans sa façon d'agir, parce qu'il ne s'est pas contenté d'étouffer les enfants. Il va glisser dans la boîte aux lettres de la mère un mot. Et lorsque son ex-compagne Marjorie rentre de son week-end, le dimanche soir, elle découvre cette lettre. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Lorsque tu auras ce mot, nous serons morts tous les trois.
Il commence, il dit. Marjo, ça va être terrible, peut-être tout autant que ce que j'ai fait ou ressenti. Tu peux donc, maintenant, voir jusqu'où nous sommes prêts à aller par amour pour toi. Mais tu ne veux plus de notre amour. Tu ne veux plus faire partie de notre famille. Tu nous as trop facilement abandonnés, alors que nous préférons te laisser, seul avec ton choix, tes désirs, ton nouveau bonheur et ton amour que tu comptes désormais déverser sur un autre. J'espère que pendant la cérémonie, tu te retourneras et en voyant toutes ces personnes tristes, en train de pleurer, tu comprendras que tout ce malheur est dû à ta seule et unique décision. Bien évidemment, nous t'en voulons de nous avoir indirectement ôté la vie, mais nous te pardonnons. Je t'ai poussé à bout pour te forcer à jouer, tu t'es prise au jeu. Cela impliquait forcément l'acceptation des règles qui le régissent jusqu'à la fin de la partie.
Code B44, expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta. L'ensemble des éléments cliniques révélés, froideur, besoin de contrôle, égocentrisme, renvoie à un profil de personnalité narcissique dénué de tout sentiment de culpabilité.
Regarde, tout ça c'est ta faute, tu m'as quitté. Maintenant il faut assumer les conséquences. C'était le message, à mon avis, que Liber Ludovic veut adresser à son ex-compagne. Dans sa tête, c'est pas sa faute, hein. Il cherche à se dédouaner, c'est pas lui responsable. Il ne veut absolument pas assumer ses actes, et il veut se faire passer pour souffrant d'un trouble psychique, et qui aurait d'ailleurs été provoqué par son ex-compagne. Donc ça aurait été vraiment le summum de la perversion, en disant « si je suis passé à l'acte, c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis dépressif. Et je suis dépressif parce que ma compagne m'a quitté. » Donc ça aurait été en plus un moyen de tout lui mettre sur le dos à son ex-compagne.
C'est la noirceur de ce dossier qui surprend en premier.
Maître Thomas Hillenbrand, avocat de Ludovic Liebert.
Ce projet triplement suicidaire que nourrit Ludovic Liebert et la façon dont il revendique la préméditation de ce geste sur une très longue période. C'est quelque chose d'assez inhabituel en 30 ans de défense pénale. Je n'avais pas vu ce genre de fait avec une préméditation de si longue durée et surtout la revendication de cette préméditation. Ludovic Liebert ne s'est jamais caché de sa responsabilité criminelle et de son projet. Il avait une forme de revendication qui était très surprenante.
C'est rare les dossiers où on a une personne qui, pendant un temps aussi long...
Ève Nizan, avocate générale.
Prépare les faits et avec un caractère méticuleux, méthodique, glacial pendant plus d'un an.
Double infanticide à Strasbourg. Un homme de 46 ans est actuellement en garde à vue. Ludovic Liebert a reconnu avoir tué ses deux enfants, Lou, 12 ans, et Léo, 9 ans. La mère, Marjorie, avait donné l'alerte quelques heures plus tôt. En rentrant chez elle, elle avait découvert un courrier inquiétant du père, dans lequel il menaçait de se suicider et de tuer les enfants. Le couple était en instance de divorce depuis un an et demi.
On a un certain nombre de détails que j'ai appelés glaçants parce que je n'ai pas d'autres mots en réalité pour pouvoir le dire. Il va créer une sorte de liste de courses de ce qu'il doit faire le jour J. Il va demander à ses enfants s'ils préfèrent être incinérés ou enterrés. Il va écrire un certain nombre de lettres détaillant comment il veut mettre fin à la vie de ses enfants et pourquoi. Il leur a fait signer une lettre pour dire qu'ils étaient en gros d'accord de mourir et que ça, tout ça était dû aux actions de leur mère. Il leur a fait signer une lettre. Et on a ça à peu près dans presque dans chaque pan du dossier. Tout ceci était un processus qui était enclenché de longue date.
Code B12. Rapport d'examen psychiatrique du docteur Vlamin. Ludovic Liebert relate que son projet était planifié depuis plus de 12 mois. Il explique. J'ai mis en place mon plan ce week-end-là parce que j'avais la garde de mes enfants. Ma femme Marjorie nous avait quittés. C'était sa décision. J'ai pas supporté. Je voulais donc mettre fin à notre vie familiale parce que dans mon esprit, je me suis dit, elle nous quitte, on doit partir. Mais si j'avais su que je serais pas mort, je les aurais pas tués. On devait partir tous les trois.
Le cœur de ce dossier, finalement, c'était de savoir est-ce que cet homme était en pleine possession de ses moyens au moment où les faits ont été commis. On a ce premier expert, hein, le docteur Mastelli, qui avait rendu donc un examen psychiatrique, hein, donc à chaud, hein, c'est-à-dire que les faits venaient de se produire, qui nous dit que quelque chose a complètement aboli son discernement parce que il aurait été sous l'empire d'un état dépressif délirant.
Code B16, rapport d'expertise du docteur Mastelli. Nous parlerons ici de mélancolie blanche, qui correspond à une forme très sévère de dépression. L'humeur dépressive est associée à un tableau suicidaire évoluant depuis des années, passant de la préparation de ce scénario de suicide collectif jusqu'à son application. Ludovic Liebert était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement.
Le docteur Mastelli décrit une profonde dépression depuis plus d'une année et il décrit un processus de mise en place d'une idée triplement suicidaire qui devient à ce point obsessionnel dans son esprit qu'il interprète d'une façon délirante les propos de son entourage. Et le docteur Mastelli va notamment décrire le fait que, au travers de propos tenus par sa fille, Ludovic Liebert a l'impression que sa fille, un, a compris son intention, et deux, accepte son projet. Il l'a clairement dit au docteur Mastelli, et le docteur Mastelli, c'est une interprétation délirante. On est dans le cadre, effectivement, d'un cerveau qui, à un moment donné, construit un projet délirant, et où il n'a plus, ce cerveau n'a plus la capacité de considérer que c'est un mauvais choix. C'est devenu obsessionnel à un point qu'il ne peut pas en échapper. Je pense que le docteur Mastelli est conscient de la gravité des faits commis par Ludovic Liebert et son rapport est conclu à une abolition du discernement. Le terme est repris à plusieurs reprises dans le rapport d'expertise. Il conclut à la nécessité d'un internement de Ludovic Liebert qui doit dès lors échapper à la justice des hommes. C'est ce qu'il aurait dû se passer, à mon sens. Mais au fur et à mesure des rapports d'expertise, on est arrivé à des rapports d'expertise qui sont, à mon sens, destinés à convenir que M. Liebert doit être jugé. Il me semble que ces rapports d'expertise ne sont pas du tout à la hauteur du rapport qui a été fait par M. Mastelli.
Code B17. Rapport d'examen psychiatrique du docteur Guillaume Vlamin. Ludovic Liebert présente une psychorigidité patente qui laisse penser que son discernement a pu être altéré au moment des faits. Ses caractéristiques de personnalité sont particulièrement prégnantes et patentes et contributives avec l'infraction qui lui est reprochée.
Vous savez, docteur, je pense sans cesse à ce que j'ai fait. Je me repasse tout le film dans ma tête. C'est difficile. Je suis coincé. J'arrive pas à repenser à autre chose. Je suis crispé, mon cœur tape fort. Je me demande si ça aurait pas pu être autrement. Et finalement, je me dis qu'il y avait pas d'autre solution.
Je prends le dossier assez tardivement. Je suis contacté par le président de la cour d'assises et je dispose d'un délai assez court pour rencontrer le sujet en détention. Et je dispose des précédents rapports d'expertise qui ne vont pas dans le même sens. Lorsque je le rencontre à la prison de Nancy, je suis extrêmement vigilant sur ma grille de lecture clinique. Voilà, je creuse énormément pour ne pas passer à côté d'une dépression larvée ou d'un autre trouble psychique éventuel. Alors, ce que je vois, c'est un sujet qui est tout à fait dans l'échange verbal. Je ne retrouve pas de tristesse de l'humeur, pas de labilité émotionnelle. Il fait un discours de façon tout à fait froid et factuel. On ne retrouve pas d'empathie non plus, hein. C'est quelqu'un qui a une grande froideur du contact. Il n'est pas du tout suicidaire. Lorsque je lui demande comment il voit l'avenir, quelqu'un de dépressif ne peut pas se projeter, il peut avoir des idées suicidaires, des idées noires, se dire pour moi l'avenir c'est foutu. Non, lui, ce qu'il me dit, c'est que il a envie de retourner à la vie de soignant, il a envie de travailler à nouveau comme infirmier en disant je trouve ça gratifiant de soigner les autres, il me le rendait bien.
Code B48. Expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratin. Monsieur Liebert ne souffre d'aucun trouble mental évolutif. Aussi, la question du discernement ne se pose pas pour nous. Lors des faits qui lui sont reprochés, le sujet ne souffrait d'aucun trouble mental ayant pu abolir, ni même altérer, son discernement.
Et d'ailleurs, Monsieur Liebert Ludovic est tout à fait dans la manipulation et le mensonge, parce que lorsque je le rencontre en détention, la première chose qu'il me dit, c'est qu'il a été hospitalisé 3 fois en psychiatrie, que les 3 fois son psychiatre lui a prescrit un antidépresseur et a posé un diagnostic de grave dépression. Ce qui n'est pas le cas, hein. Le psychiatre qui l'a suivi n'a jamais posé de diagnostic de dépression et ne lui a jamais prescrit aucun antidépresseur. Donc là, il est pris en flagrant délit de mensonge.
Que Ludovic Liebert ait tué ses 2 enfants est d'autant plus incompréhensible qu'il soignait les autres. Il était infirmier libéral à Strasbourg, un homme parfaitement inséré. Il avait juste la réputation d'être psychorigide.
Pour Ludovic Liebert, être infirmier n'a pas été une vocation, c'était un plan B. Lui, il se voyait pharmacien. Pharmacien non pas pour aider les autres, mais pharmacien par goût des sciences et surtout par statut social. Il échoue 2 fois au concours de première année de pharmacie et son père finalement lui paye une école d'infirmier non pas en France mais en Belgique. Pour être sûr d'avoir le diplôme, comme il n'y a pas de concours en Belgique. Alors je ne sais pas ce qu'il attendait de son père, mais pourtant son père l'a quand même soutenu. Peut-être pas comme lui il voulait, peut-être qu'il s'attendait à ce que son père l'encense, le considère comme un enfant roi, qui lui répète à longueur de journée « mais t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus gentil ». Or son père, à mon avis, a dû lui dire « mon gars, t'échoues la première année de fac de pharma, qu'est-ce que tu fous? Tu fous rien, vas-y, sors-toi le doigt du cul, travaille ». Il revient dans le nord de la France, il reste sans emploi quelques temps et finalement trouve un poste aux urgences médicales de Haute-Pierre et c'est là qu'il va avoir sa première expérience professionnelle.
En fait, au début de sa carrière, il a fait énormément de remplacements en libéral.
Docteur Guillaume Vlaminck, expert psychiatre.
Et donc il expliquera qu'il préfère le statut de remplacement, je cite, parce que la crainte d'être coincé. Ah oui, quand on est titulaire de la fonction publique, c'est un peu plus compliqué quand on veut quitter un poste. L'autre élément, c'est la collaboration de 15 ans qu'il aura eu et qui va pas forcément bien se terminer.
Au boulot, ma collègue, elle en foutait pas une. C'est moi qui gérais tout. Si ça a tenu, c'est grâce à moi. Et puis on s'est engueulé, et puis du jour au lendemain, elle a changé les serrures et j'étais à la porte, quoi. C'est injuste. Je sais pas quoi vous dire de plus.
Et à un moment donné, sa collaboratrice, elle a voulu mettre les choses au clair, et lui n'a pas voulu. Mais on se rend bien compte que quand lui ne contrôle plus finalement le fonctionnement du cabinet libéral, l'opposition avec sa collaboratrice, et ça amène à des problèmes professionnels, en fait.
Code
code B19. Expertise psychiatrique du docteur Guillaume Vlamin. Ludovic Liebert a grandi dans la région lilloise avec un frère et une sœur. Il décrit son enfance comme plutôt bonne. On ne note aucune carence affective de type abandonnique. Il définit son père comme un homme strict, autoritaire, mais bienveillant et protecteur. Sa mère était une femme maternelle, aimante et attentionnée.
Au moment où nous le rencontrons, il nous explique que les relations avec le père sont très conflictuelles. De toute façon, ça fait, je cite, un 35 ans qu'il encaisse, et on comprendra très rapidement qu'en fait, s'il n'y a pas eu de carence affective ou éducative durant l'enfance, il a été modelé quand même dans un cadre très rigide, très autoritaire, sur une représentation de la figure paternelle et de la famille très rigide, elle aussi, et donc ça caractérise aussi sa capacité, lui, en tant que père, à reproduire ce modèle et le fait d'avoir des difficultés de s'adapter. Les éléments aussi très importants, c'est la question de sa vie psycho-affective, parce qu'il va nous expliquer que il a eu, avant sa vie maritale, deux autres relations dont les ruptures ont été faites à son initiative.
Code P10, expertise psychiatrique du docteur Guillaume Vlamin. Ludovic Liebert rencontre sa compagne en 2005. Elle aussi est infirmière. Ils ont une fille en 2007 et un garçon en 2010.
À partir de 2013, donc ils vont vouloir avoir un troisième enfant et malheureusement cela ne va pas pouvoir se faire pour des raisons médicales. Il va y avoir une interruption médicale de grossesse.
Pourquoi il regrette cette troisième grossesse qui n'est pas allée à son terme? Parce que c'était la seule façon pour lui de sauver le couple. Il le dit qu'il a mal vécu ce passage-là et qu'il était très conscient que si cet enfant ne venait pas au monde, il perdrait sa place de chef de famille. Donc c'est la seule chose qu'il regrette finalement.
Et donc la dynamique du couple, elle va plutôt se dégrader à partir de là, notamment sur le champ sexuel. Et en fait, on va se rendre compte que monsieur Liebert, il a quand même une propension à la relation d'emprise et la question de la contrainte et de l'aspect coercitif peu abordée.
Ouais, pour les rapports sexuels, elle était toujours d'accord, Marjo. Bon, c'est vrai que parfois, fallait que je la pousse un peu, mais globalement, j'avais pas à me plaindre.
Bon, c'est quand même une forme de contrainte morale qu'il ne semble pas percevoir et qui a quand même un impact sur le plan de la vie conjugale, puisque la sexualité, c'était vraiment une source de conflit. On se rend compte que c'est un individu qui est très rigide, qui a des idéaux, qui a une idée de la famille. La famille, elle doit être comme il l'a définie, et si la famille ne peut pas être comme il l'a défini, il va avoir des grandes difficultés à s'adapter. Ces mécanismes d'emprise entre Marjorie et Ludovic Liebert, elle va se caractériser aussi à chaque fois que madame va vouloir le quitter. Parce qu'il va y avoir des tentatives, mais alors il va mettre en place des processus pour maintenir cette relation. Dans un premier temps, ça va être on va faire une thérapie de couple. Mais en fait, on peut se poser la question de l'aspect utilitaire de cette thérapie, parce que par la suite, quand la séparation sera de fait, il nous expliquera que ben non, il n'a pas eu besoin de thérapie, ça sert à rien. Et là encore, c'est des mécanismes de contrôle qu'il va continuer à mettre en place après la séparation.
Ouais, c'est moi qui avais créé les adresses e-mail de Marjorie. Alors quand elle s'est barrée, j'avais ses codes de connexion et j'ai continué à scruter ses mails.
Elle a décidé de se séparer et donc à un moment donné, il n'avait plus le contrôle. Hein. Il n'avait plus le contrôle notamment sur les modalités de garde des enfants. Il mettra en avant que ça me convenait pas parce que les enfants, c'était une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ils étaient obligés de faire leur pactage. Bon, Ludovic Liebert évoque le fait que c'était compliqué pour les enfants, mais des pièces de procédure qu'on a, c'était surtout compliqué pour monsieur Liebert de considérer que ses enfants, ils devaient partir à la fin de la semaine et qu'il ne les avait qu'une semaine sur deux.
Pour comprendre comment le couple s'est délité, la juge d'instruction ordonne une expertise psychologique de Marjorie, l'ex-compagne de Ludovic Liebert.
Alors, elle va décrire quelqu'un que moi, du coup, je qualifie de personnalité narcissique, quelqu'un d'égocentré, d'égoïste, qui a besoin de vampiriser l'autre pour se nourrir narcissiquement.
Valérie Ritzenaler, experte psychologue.
Et c'est une relation très toxique qu'elle décrit avec cet homme. Elle était déjà dans une emprise avec lui, et sous emprise. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est une jalousie excessive et une volonté de la contrôler qu'il y avait chez lui. Donc c'est autour de cette notion de jalousie qu'on peut, quand elle est pathologique, qu'on peut voir se déployer par la suite de tels types de passages à l'acte où l'enfant est finalement du coup un objet qui sert à la vengeance et qui sert blesser l'autre parce que lui-même a été blessé d'avoir été quitté. Ce qui est déconcertant quand je rencontre Marjorie, c'est que je m'attends à voir une femme, une mère en tout cas, en détresse et en grande souffrance. Mais la première image que j'ai d'elle, c'est pas celle-ci. C'est quelqu'un, c'est une très jolie femme qui a une tenue très soignée. Presque un peu, on va dire, un peu figé. C'est vraiment des vêtements assez serrés, très apprêtés. Je crois même qu'elle porte des talons, les cheveux très bien coiffés, elle est maquillée. Enfin, elle a une présentation comme ça, presque sophistiquée. Pas dire tirée à quatre épingles, mais ce serait presque ça. Et un visage aussi assez peu expressif. Elle est assez désagréable, en fait, dans le contact. Et je comprends au fur et à mesure que l'entretien se déroule qu'en fait, elle fait tout pour tenir face à l'horreur de ce qui vient de lui arriver. Et que tout ce qu'elle a mis en place comme ça au niveau de sa tenue ou de son contact vis-à-vis de l'autre, c'est une façon de mettre les choses et les gens à distance pour tenir psychiquement. Parce qu'elle est prête à s'effondrer, elle est au bord du gouffre.
Trois ans après avoir assassiné sa fille et son fils, Ludovic Liebert comparaît devant la cour d'assises du Bas-Rhin. Il risque le maximum, la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le box, il reste imperturbable. Faites entrer l'accusé!
On découvre un homme brillant, intellectuellement, d'un niveau très supérieur à ce qu'on a l'habitude de pouvoir rencontrer.
Maître Thomas Hillenbrand, avocat de Ludovic Liebert.
Vraiment quelqu'un qui est extrêmement respectueux, très agréable de contact, avec néanmoins peut-être une certaine froideur, mais... On a l'impression que Ludovic Liebert, il se regarde un petit peu de l'extérieur. Et sans doute depuis le jour de la commission des faits, puisque finalement, ce qu'il avait prévu n'a pas été achevé. On peut pas dire comme s'il n'avait pas agi, parce qu'il continue à se dire coupable des faits. Il est parfaitement conscient de l'atrocité du geste, de sa gravité dans toute son ampleur. Et son regret principal demeure quand même le fait de ne pas avoir réussi à mettre fin à ses propres jours.
Il coopérait dans le sens où il répondait aux questions. Il était toujours froid.
Ève Nizan, avocate générale.
Elle était aussi très froide parce que elle ne pouvait pas s'autoriser, je pense, à s'effondrer parce que l'effondrement, il est impossible pour elle. Je pense qu'elle vivait pour ce procès, pour pouvoir avoir des explications. Et ces explications, finalement, on les a toutes eues, mais elles sont inaudibles. Comment entendre qu'un père est capable de faire ça? Comment entendre l'homme qu'elle a aimé, l'homme avec lequel elle s'est mariée, a décidé de lui faire ça? Je pense que tout était impossible à entendre. Le sentiment qui s'impose donc à cette mère de famille, c'est 1. Le poids de la culpabilité. parce que elle se reproche, elle, de ne pas avoir senti, de ne pas avoir compris ce qu'il était en train de préméditer. Et elle nous dit aussi que elle a dû mettre en place un positionnement combatif, pas de larmes. Donc elle semble active, solide, mais qu'en fait, tout ça, c'est une forteresse, un château de cartes qui risque de s'écrouler à n'importe quel moment.
Et j'ai trouvé effectivement que ce terme, voilà, était presque morte psychiquement. Elle fonctionnait encore, elle travaillait, elle avait pris deux emplois.
Valérie Ritz-Sénaleur, experte psychologue.
Elle ne faisait plus que ça, travailler. Elle ne se permettait pas de loisir, elle n'avait plus envie d'ailleurs de prendre du plaisir ou d'avoir un loisir. Et elle survivait à peine. Ce passage à l'acte, le meurtre de ses enfants, c'était une atteinte directe la concernant elle et qui avait abouti dans le sens où elle avait été psychiquement tuée.
C'est ce qu'il voulait en réalité, c'est de la tuer à travers le meurtre de ses enfants. C'est ce qu'il dit finalement dans ses lettres, hein. C'est-à-dire « Je veux que tu sois témoin, je veux que tu vois la souffrance que tu m'as imposée en souffrant toi-même à travers la perte de tes enfants. » Et cette souffrance, il veut qu'elle la vive toute sa vie. Il veut qu'elle y pense chaque jour de sa vie, ce qui, en réalité, va être le cas.
Code B51, expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta. Ludovic Liebert ne présente pas de dangerosité psychiatrique du fait de l'absence de troubles mentaux. Sa dangerosité criminologique est réduite, l'intéressé ayant appliqué sa vengeance contre son ex-compagne.
La phrase qui pour moi résume tout ce dossier, c'est que oui, il était malade, mais malade d'une haine dévorante. Il était complètement animé que de cette haine-là qui habitait chacune de ses cellules.
J'ai jamais eu l'impression de rencontrer un monstre et j'ai jamais eu l'impression de défendre un monstre. J'ai défendu quelqu'un qui a fait sans doute quelque chose de monstrueux, mais qui m'a permis de constater que même dans les esprits qui semblent les plus équilibrés, il peut y avoir un moment donné où il y a une déconnexion avec la réalité qui transforme en criminel l'individu qui peut sembler pour autant... Avoir un équilibre parfait, il n'a pas de casier judiciaire, il a des enfants, il a une vie stable, et même s'il a des problèmes avec son épouse, il a tellement de choses auxquelles il peut se raccrocher qu'on ne voit pas à aucun moment pourquoi il en arrive là. C'est quelque chose qui est inexplicable, mais qui manifestement peut arriver chez beaucoup d'entre nous.
La cour !
Requérir la réclusion criminelle à perpétuité, c'est quelque chose de lourd. Hein. C'est pas avec gaieté de cœur qu'on demande à ce qu'un homme passe sa vie derrière les barreaux. C'était nécessaire dans ce dossier et pour moi, il n'y avait aucune autre alternative, aucune autre possibilité. Mais il n'a fait montre d'aucune émotion. C'est-à-dire qu'on est là pour l'assassinat de ses deux enfants. Et la seule larme qui a été versée, la seule émotion, au début d'émotion, c'était lors du dernier mot. Sinon, rien.
Monsieur Liebert, levez-vous, je vous prie. La parole vous revient en dernier. Avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ? Oui, je voulais présenter mes excuses à toute ma famille, à toute ma belle famille aussi. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé.
Parfois, quand on va en cour d'assises, on a une sorte de déferlement d'émotions avec beaucoup de larmes. Et là, dans la salle, c'était une sorte de silence très pesant qui était peut-être à l'image de ce qui était devenu leur vie, c'est-à-dire ce silence et ce caractère dénué maintenant de toute vie.
19 janvier 2022, Ludovic Liebert est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il ne fait pas appel du verdict. C'était Ondelat raconte Côte B, rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Deby et réalisation Mathieu Fret. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin.
Retrouvez Ondelat raconte Côte B tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.